Chapitre 5. Les êtres qui aiment facilement, qui s'attachent vite, sont presque toujours des êtres faibles, impressionnables, ardents, sans énergie. Ils n'éprouvent fortement qu'une seule chose, le perpétuel besoin de se confier à une amitié, de se sentir protégés par une affection. Pour eux, les moindres événements de la vie du cœur prennent les proportions d'une épouvantable révolution. Et ce tourbillon qu'ils créent les emporte. Cette tourmente qu'ils déchaînent les brise. Henri d'Agincourt, depuis 2 mois, flottait ainsi désemparé. Il le sentait, mais son caractère, insuffisamment trempé, refusait de lutter, se déclarait impuissant, s'avouait vaincu d'avance. Et tous les jours, l'enlisement marchait, le poussant à sa perte. Maintenant, il fuyait la société de ses amis. La solitude l'attirait, sa mélancolie lui faisait préférer à toutes les distractions les longues et désolantes rêveries. Par-dessus tout, la présence de sa mère lui était insupportable. Et il passait des heures et des heures dans son petit appartement du quai des Chartrons à analyser ses douleurs, à aigrir son hypocondrie. Ce jour-là, un dimanche, vers 3 heures, Henri sortait de chez lui pour se rendre au jardin public où un concert avait lieu, lorsqu'il se trouva tout à coup, nez à nez, avec mademoiselle de Nestalas qui débouchait de la rue Saint-Esprit. « Ah, mademoiselle Josiane, comment allez-vous? Monsieur votre père ?»« Bien, très bien. » Ma mère, ce matin encore, s'inquiétait de ne plus vous voir. « Nous sommes si peu sortis depuis 1 mois. Madame d'Agincourt se porte bien ?»« À peu près. Elle se plaint sans cesse, mais marche tout de même. » Et Gaétan, que devient-il donc? On ne l'aperçoit plus que de loin en loin. Gaétan est très préoccupé, très sauvage ces temps-ci. Il a une idée en tête. Vous savez, mon frère, c'est une drôle de nature quand une marotte le tracasse. Son mariage, peut-être, murmura ironiquement le jeune homme. Oh, je ne pense pas. Ma demande est sans doute indiscrète. « Non, non, mais je ne sais rien. Je soupçonne, voilà tout. »« Et ce soupçon ?»« Peu, une femme, parbleu. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce doit être quelque fille du peuple qu'il cherche à séduire. »« Endiablé, ce Gaétan, dit Henri, toujours à courir. »« Et vous donc, interrompit Josiane, je ne pense pas que la visite que vous venez de faire dans cette maison... » Une visite dans cette maison? Mais je sors de chez moi, mademoiselle. Ah, fort bien! Une garçonnière, alors? Appelez ça comme vous voudrez. J'y suis tranquille, voilà l'essentiel. On a de l'air, de la vue. Bon, bon, nous connaissons l'antienne. Mes compliments, monsieur Henri. Oh, je vous jure! Ne jurez point. D'abord, je ne vous croirai pas. « Ensuite, je serai tentée d'aller jeter là-haut un coup d'œil. Nous sommes curieuses, nous autres femmes. C'est là notre moindre défaut. »« Qu'à cela ne tienne, mademoiselle, je vous offre l'hospitalité si vous voulez. »« Pourquoi pas? Pensez-vous que la peur du qu'en dira-t-on m'empêcherait de monter ?»« Ah, si je cherchais jamais à compromettre quelqu'un !»« Ce ne serait pas moi, voulez-vous dire ?» acheva Josiane. « Mais oui, au fait, voilà un excellent moyen de réparer votre premier échec. Tâchez d'amener ici mademoiselle Chabran. On n'osera peut-être plus vous la refuser. C'est la carte forcée, je sais bien, mais on l'a vu pratiquer parfois avec succès. » Henri fit un geste de dégoût. « Je n'emploie pas ces moyens-là, » répliqua-t-il sèchement. « À votre aise, mon cher monsieur, » poursuivit délibérément Josiane. Continuez donc à vous morfondre dans votre solitude et avec vos regrets amers. Seulement, ne vous plaignez plus. » Et avant que, figé par la surprise, il eût eu le temps de répondre, elle ajouta « Allons, au revoir, à un de ces jours, n'est-ce pas, quand il vous plaira de pousser jusqu'à sa barège. » Henri répéta « Au revoir, mademoiselle. » Et s'éloigna, triste, la démarche lasse, prenant machinalement, par habitude, le cours du pavé des Chartrons pour gagner le jardin public. Continuez donc à vivre dans votre solitude et avec vos regrets amers. » Comme elle avait bien deviné, cette Josiane, le mal qui le rongeait. Ignorante des ménagements, elle avait mis brutalement le doigt sur la plaie. « Continuez donc à vivre dans votre solitude et avec vos regrets amers. » Combien de fois n'avait-il pas maudit lui-même son impuissance à réagir contre un découragement avilissant ? Seulement, ne vous plaignez plus. Comment ? Il n'aurait même plus le droit de pleurer ? Il n'aurait même plus le droit de crier ses rancœurs, ses désespoirs ? Eh bien non, maintenant, il ne se plaindrait plus, il ne voulait plus se plaindre, parce qu'il se révoltait à la fin. Oui, il se révoltait contre un état de choses qui menaçait d'ébranler sa raison, de détruire sa dignité. Eh, morbleu, allait-il donc, à 27 ans, briser son avenir parce qu'une fille coquette s'était trouvée sur sa route ? Lucienne, une coquette ! Ah, tant pis ! Il en avait assez de ronger son frein, de refouler les élans de sa jeunesse, de comprimer son cœur. Vive la vie ! Désormais, il voulait vivre comme tout le monde, en sceptique, en indifférent. Sa jeunesse qui bouillonnait, il la dépenserait, il aurait des maîtresses. Il trouverait d'autres affections qui lui redonneraient le goût de l'existence. Ah, des affections ! Pourquoi pas ? Était-ce donc chose si rare ? N'en avait-il pas une à côté de lui, près d'éclore ? Tout ne l'engageait-il pas à accepter cette affection, cette consolation ? La nature lui donnait l'exemple. Partout, dans cette déjà tiède journée de février, c'était le printemps qui s'annonçait, la vie qui reprenait. Tout parlait d'amour, d'union. Les poursuites d'oiseaux dans les massifs, les agaceries des cygnes sur le petit lac, les chuchotements, les éclats de rire égrenés le long des allées par les couples de jeunes gens marchant la main dans la main. Et lui, lui était seul au milieu de tous ces êtres qui s'aimaient. Puis la musique joua, et cela l'énerva jusqu'à en pleurer. Alors il partit sans attendre la fin du concert et marcha droit devant lui sans savoir où. 5h30 sonnèrent à l'église Saint-Louis. Comme Henri tournait à l'angle de la rue Borie, il fut heurté par une jeune femme qui courait, tremblante, le regard effaré, avec tant de précipitation que son élan la jeta presque dans ses bras. Tous les deux reculèrent étourdis, mais aussitôt un cri s'échappait simultanément de leur bouche. « Angèle ! Monsieur Henri ! Vous ici, ma chère petite, et qu'avez-vous à courir ainsi ? Ah, monsieur Henri, c'est affreux ! Si vous saviez, ce monsieur là-bas, vous voyez, ce monsieur qui est arrêté maintenant près de la baraque des douaniers et qui regarde de notre côté d'un air indifférent, il m'obsède, il me poursuit depuis un quart d'heure. » Henri murmura tout bas. « Ce monsieur, là-bas, ce petit monsieur sec et malingre, oh, mais je ne me trompe pas, c'est Gaétan. Ah, vraiment ? » continua-t-il tout haut. « La rencontre est plaisante. Alors, c'est de vous que sa sœur me parlait ? » ?»« De moi ? Comment ? Peut-être, je ne comprends pas. » « Pauvre Angèle, vous croyez que ce monsieur m'a vu vous retenir, vous parler ?»« Sûrement, il n'a tourné le dos qu'à ce moment-là, en prenant immédiatement cet air détaché. » Alors, s'il m'a reconnu, me voilà encore une belle affaire sur les bras, soupira tout bas le jeune homme. « Ah, que faire, mon Dieu !» Puis, sa résolution prise, il ajouta: « Tenez, Angèle, venez, suivez-moi, glissez-vous derrière moi le long de ce mur. 10 mètres à faire et vous serez chez moi. Là, vous serez à l'abri de cet individu. » « oh non, monsieur Henri, je vais rentrer, maman m'attend. » « Une minute seulement, le temps de dérouter votre amoureux récalcitrant. La maison a 2 issues, vous ressortirez par derrière. » Et pour regagner le quai de Bacalan, vous prendrez des rues parallèles. Tenez, voilà, nous y sommes. Oh, pourquoi, monsieur Henri ? Que me faites-vous faire ? Un étage à monter simplement. La première porte à gauche. Là, vous y êtes. Ici, plus rien à craindre au moins. Regardez, les fenêtres donnent sur le quai, vous pouvez voir sans être vu. Où est-il, lui ? Asseyez-vous, ma chère enfant. Ah, maintenant, mademoiselle, contez-moi ce que vous êtes devenue depuis 15 jours. Les affaires vont-elles mieux ? Votre mère, vos petites sœurs ?
C'est toujours à peu près la même chose. J'ai travaillé un peu, cependant, ces jours derniers. Merci bien, en tout cas, de ce que vous avez fait pour nous cette semaine.
Allons donc, il s'agit bien de cela. Dites-moi plutôt, voyons, quelle grosse émotion vous venez d'avoir, quel danger vous avez couru. Il n'y a pas d'indiscrétion ?
Aucune.
Bon, ainsi, mademoiselle, continua Henri en souriant, vous avez un amoureux qui vous sert de près à ce que je vois.
Je ne sais pas si j'ai un amoureux, mais...
Mais vous, peut-être, vous êtes amoureuse ?
Ça ne s'avoue guère, cette chose-là, dit-elle en rougissant.
Oh, à moi !
À vous, pas plus, moins qu'à tout autre.
Le jeune homme tressaillit. Au bout d'un instant seulement, il poursuivit.
Et l'heureux mortel que votre cœur a distingué, connaît-il son bonheur ?
Vous êtes bien curieux aujourd'hui, monsieur Henri.
Non, je ne pense pas que cet heureux mortel connaisse, soupçonne même.
Sans achever, elle se pelotonna, timide, les yeux mi-clos, au fond de la bergère sur laquelle d'Agincourt l'avait fait asseoir. Les femmes ont de telles facultés d'assimilation que cette jeune fille, sortie du peuple, n'ayant qu'une instruction rudimentaire, ne fréquentant habituellement que dans des milieux vulgaires, ne se trouvait pas déplacée dans cette garçonnière élégante dont une note bohème et artiste rehaussait le confortable. Une certaine timidité, une timidité exquise, accusait seule le trouble intime qui l'agitait, ajoutant d'ailleurs un charme de plus à la gracieuse simplicité de son attitude. Et Henri la considérait sans parler, souriant, ravi tout à coup, un peu gêné toutefois. Un frisson la secoua.
« Vous avez froid, dit-il. Voulez-vous que j'allume du feu ?»«
Mais non, il fait très bon. Au surplus, je me sauve. »«
Pas encore, voyons. Si par hasard on vous guettait sur le quai, ce serait à recommencer. Non, je vous tiens, je vous garde. Vous voulez bien que je sois votre protecteur contre... contre... »
Il se tut et elle n'osa pas répondre.
« Savez-vous, reprit-il, que vous êtes mignonne au possible avec ce petit chapeau noir qui va si bien à votre gentille frimousse triste et palote ?
Eh eh, je m'explique aisément le coup de foudre dont sont frappés ceux qui vous regardent simplement en passant dans la rue. »
En même temps, il lui prit les mains, ses mains nues, abîmées par les soins du ménage, mais fines tout de même et fuselées. Et doucement, lentement, s'inclinant vers elle, il mit un baiser sur le bout de ses ongles.
« Oh, monsieur Henri » s'écria-t-elle effarée. « Monsieur Henri !»
Elle se leva pour se dégager, s'éloigner, partir.
« mais non, voyons, ma chère petite, je ne veux pas vous manger. Vous savez bien que je suis votre amie, n'est-ce pas ?»«
Oh oui, vous avez toujours été si généreux !» Pour moi, pour nous.
Par conséquent, vous me comprenez, ce que je voudrais, ce serait de vous voir avec moi plus d'abandon. D'abord, j'éprouverais une véritable joie de constater qu'il y a de par le monde quelqu'un ayant confiance en moi. Puis, je crois que cette confiance ne serait pas trompée. J'ai un tel besoin, voyez-vous, Angèle, un tel besoin de sentir près du mien, en communion avec le mien, un cœur aimant, sincère, affectueux, avec lequel je puisse échanger de l'affection, du dévouement. Je ne sais pas si vous avez ressenti cela parfois, mais il y a des heures dans la vie où l'on est saisi comme par une rage de se donner, de partager son âme, de fondre tout son être dans un autre être qui serait bon, loyal, généreux. Je suis dans un de ces moments-là. Et il me semble, Angèle, que vous seriez si bien cet être idéal que j'ai rêvé.
« Ah non, non, je me trompe, ce n'est que l'illusion de nos dieux despotismes. Je vous demande de me prendre comme confident, et c'est moi qui en cherche un. Je demande à votre cœur de se livrer, et c'est pour donner au mien l'occasion de s'ouvrir. Oh, l'affreuse ironie, la lâcheté de l'égoïsme! Ne m'en veuillez pas, je souffre tant. De quoi? Je ne sais plus. De tout. »
Henri s'était écroulé sur une chaise près de la jeune fille, là, haletant. Pendant ce long monologue, Angèle n'avait pas risqué la moindre objection, et elle demeurait encore muette, non pas d'indifférence, mais d'étonnement, d'émotion. Il répéta « Vous me comprenez ?» Et elle murmura « Je crois que oui. Vous avez eu de cruelles déceptions. Votre cœur a saigné. Vous désirez en trouver un autre pour le guérir. Et je suis sûre que le vôtre, Angèle, possède toutes les qualités nécessaires, fit Henri avec élan en reprenant les mains de la jeune fille qu'il baisa longuement. La pauvre petite tremblait si fort qu'elle eut toutes les peines du monde à articuler bien bas.
« Non, vous vous trompez, monsieur Henri. Je ne suis pas de votre rang, moi. Je n'appartiens pas à votre monde. Tout me manque pour être celle que vous rêvez. »
Et elle dit cela d'une voix si douce, si humble, si désolée, montrant combien elle était navrée de son impuissance à assurer le bonheur de son amie, qu'Henri fut pénétré d'un profond attendrissement. Ses paupières se mouillèrent, la sympathie de la douleur engendrait l'amour avec la pitié. Maintenant, la jeune fille n'osait plus parler, la tête posée immobile, lasse, sur le dossier de la bergère. Ses yeux seuls vivaient, ses grands yeux aux longs cils de soie qui se fixaient sur Henri avec cette expression d'attachement absolu qu'ont les yeux de chien lorsqu'ils regardent leur maître. Angèle était, sinon très jolie, du moins fort gentille et surtout séduisante grâce à ce charme de la jeunesse qui s'accuse dans la limpidité des yeux, dans la fraîcheur de la bouche, dans la finesse des traits, dans la délicatesse des lignes de la poitrine. Henri, toujours muet, la contemplait rêveur. Par instant, d'étranges frissons l'agitaient. Et dans l'ombre qui s'épaississait, les minutes coulaient sans qu'ils songeassent ni l'un ni l'autre à rompre ce silence lourd du poids de leur peine tristement évoquée. Par moments, de légères commotions secouaient leurs mains toujours unies. C'était le passage, au contact de leurs doigts, de ce fluide indéfinissable qui jette invinciblement les amoureuses aux bras des amants. Enfin, l'heure vint. Henri se leva, nerveux, un peu pâle, la démarche mal assurée comme celle d'un homme ivre. Il se pencha, ses lèvres se posèrent sur celles d'Angèle. Surprise, apeurée, frémissante, la jeune fille n'eut pas la force de se détourner. Ses yeux se fermèrent et elle succomba simplement, résignée, sans aucune des révoltes qui accompagnent toujours ce sacrifice, le plus grand qu'une femme puisse faire, si doux qu'il soit à son cœur. La raison reprit ses droits, trop tard, devant l'énormité du fait accompli. Avec la présence d'esprit, la pudeur d'Angèle se réveilla et, se cachant le visage dans les coussins du divan, elle fondit en larmes. Henri, debout, près de la table, tout penaud, la regardait de cet œil atone, hébété, des gens qui ne sont pas encore remis d'un choc trop violent, qui ne sont pas revenus d'une incompréhensible surprise. Car c'était le mot, pour tous les deux, ça avait été une invraisemblable surprise. Les insouciants, les égoïstes, eurent conclu par une pirouette en murmurant « Tant pis pour elle !» Henri, conscient des responsabilités encourues, des devoirs qu'elle lui imposait, se morigénait et ne songeait pas à consoler Angèle. La jeune fille s'était relevée chancelante, les yeux rouges, la poitrine gonflée de sanglots. Et, prenant ce mutisme pour de l'indifférence, elle voulait partir tout de suite, fuir n'importe où. Alors seulement, il comprit sa faute et s'ingénia à la réparer par un surcroît de tendresse. Pauvre petite Angèle, elle en avait si peu rencontré tout le long de son existence de cette tendresse qui réchauffe, qui console, qu'elle se sentit revivre sous les caresses du jeune homme. Et lorsqu'il fallut se séparer, elle s'en alla, heureuse, sans une arrière-pensée de rancune, avec le seul regret de quitter trop vite son amie.